Bonjour à toutes et à tous. Et puis donc, je vais présenter la Société biblique de Genève par rapport aux quatre axes de notre mission, les quatre choses autour desquelles nous avons des activités. Société biblique, la première chose à laquelle nous pensons, ce sont les Bibles, bien sûr. Bible en français, avec deux traductions, la seconde 21 et la NEG. Puis au-delà du français, les langues de la Suisse, et puis au-delà des langues de la Suisse, des langues parlées par des ethnies composées de quelques dizaines de milliers de personnes. Pour accompagner ces Bibles dans la méditation, dans la lecture, dans l'étude, nous éditons des livres sur différents thèmes. Puis enfin, ces Bibles et ces livres doivent être distribués. Donc nous avons pour cela une plateforme logistique de distribution à Romanel, mais également des librairies avec lesquelles nous sommes en contact, qui ne sont pas seulement un point de vente, mais on l'a encore plus vu pendant la pandémie, des points de témoignage de la foi. Et enfin, nous avons une attention particulière, portons une attention particulière sur la génération des 18-30 ans, qui n'a pas le même rapport au livre, pas le même rapport à l'information, et donc nous questionnons et nous efforçons de bâtir des produits qui leur correspondent et qui permettent aussi de les accompagner dans leur chemin de foi. Donc par rapport aux Bibles, la Bible a été diffusée dans de nombreux formats et j'ai vu à l'entrée ici ces Bibles à 2,50 francs qui ont été diffusées à presque 5 millions d'exemplaires en français, puis ces mêmes Bibles low cost existent également en allemand, en italien et en tout pour 6 millions de personnes qui ont cette Bible et qui ont pu l'acheter pour la découvrir, parce qu'elle était à ce prix-là. Bible aussi sur des formats numériques, Bible distribuée à travers des évangiles, et puis des Bibles dans des éditions d'études qui permettent également de pouvoir creuser le texte biblique sous différents aspects. Alors ce que nous efforçons de faire, c'est bien sûr de moderniser déjà les éditions, comme ici l'édition Second 21 Compact, à travers des Bibles plus valorisante, on dirait, que la low cost à 2,50 francs, ici une Bible qui sera à 6,90 francs, mais que nous visons pour être aussi diffusée à large échelle, puis des Bibles plus personnalisées où chacun peut trouver son modèle préféré. Aussi pour les Bibles d'études, nous avons complètement modernisé la Bible d'études Vie Nouvelle avec de nouvelles présentations comme ici. Puis il n'y a pas que des Bible à moderniser, il y a également des nouveaux concepts comme cette Bible journal de bord que nous avons édité à grande marge qui permet soit de prendre des notes pour les gens un petit peu scolaires comme moi ou de laisser cours à sa créativité comme cette lectrice qui a illustré le livre de l'Ecclésiaste avec des dessins extrêmement créatifs. Bible journal de bord extrêmement apprécié. Et puis au-delà du renouvellement de l'extérieur des Bibles, il y a aussi le renouvellement de l'intérieur des Bibles. Donc de nouvelles traductions qui sont des projets au long cours, voire au très long cours. J'en mentionnerai deux pour le moment. En italien, une traduction dynamique en italien en partenariat avec une société américaine, Tyndale. C'est la première traduction dynamique moderne qui sera à disposition des chrétiens en Italie, d'où son importance. L'Évangile et les Actes sont prévus pour être parus à la fin de cette année, le Nouveau Testament en 2022. Puis en 2025, une Bible et la Bible d'études Vie Nouvelle en italien disponibles en même temps. C'est ce que nous prévoyons. Donc, vous pouvez penser à cela, ce projet, dans vos prières pour que cette Bible soit à disposition des chrétiens en Italie. En allemand, la nouvelle traduction de Genève, qui est une traduction à la fois dynamique, fluide et extrêmement précise, est un projet au très très long cours puisqu'il a commencé au siècle dernier. Mais cette traduction est extrêmement apprécié dans le Nouveau Testament, les psaumes et les proverbes. Et nous continuons avec différents partenaires, c'est pour cela qu'il y a quelques aléas pour le Pentateuch publié en automne 2021. Et puis, je pense que la Bible sera un jour complétée avant que je parte à la retraite, en tout cas. Mais ce sera une très très belle traduction. Puis nous avons intégré en 2017 Midi Bible, qui a été créé par un de mes prédécesseurs qui se voulait diffuser la Bible en langue minoritaire. Donc nous avons des partenariats avec des sociétés de traduction qui traduisent la Bible dans des langues parlées par quelques dizaines de milliers de personnes, donc des langues qui ne sont pas courantes, pour leur fournir la Bible ou le Nouveau Testament dans ces langues-là. Nous pensons que, certes, ces personnes parlent le français ou l'anglais ou différentes langues étatiques, mais ce n'est pas leur langue du cœur. Et nous trouvons qu'il est important de leur procurer le texte biblique dans la langue dans laquelle ils ont grandi, leur langue du cœur. Et ainsi, 4 à 5 projets par an de Bible, de Nouveau Testament, sont ainsi mis à disposition, comme dans les derniers, dans la langue Kaffa, un peuple situé en Éthiopie d'1 million de personnes, où 10 000 Bibles ont été réalisées, en République centrafricaine, le Ngoubougou, pour 95 000 personnes, 5 000 Nouveaux Testaments ont été réalisés, etc. Donc, à raison de 4 à 5 projets par an, des Nouveaux Testaments ou Bibles sont mis à disposition de peuples qui peuvent ainsi voir la Bible ou le Nouveau Testament leur parvenir dans la langue du cœur. Nous diffusons également la Bible, et je mentionnerai cette opération en partenariat avec notre partenaire pour l'Afrique, où des Bibles pour les enfants ont été distribuées. Vous voyez ici ces enfants tout heureux de recevoir ces Bibles. Et même cette Bible a été donnée à l'orphelin d'un imam qui lisait ainsi cette Bible-là. Donc nous avons aussi vocation non seulement de traduire, de moderniser l'extérieur ou l'intérieur, mais aussi de diffuser la parole de Dieu. Pour accompagner ces Bibles, des livres sur différents thèmes, comme ici des livres de commentaires de textes sur 1 Corinthiens ou Juge Ruth, des livres de présentation de la foi, y apparaître une somme pour défendre la foi, une fois des arguments, qui paraîtra dans le courant de l'été. Des livres qui traitent plus de sujets pratiques, comme par exemple « Vivre en chrétien aujourd'hui », « Quelle éthique adopter ?»« Comment vivre ?» Comment vivre sa foi, comment penser la mort, comment penser la vie, comment penser le mariage, comment penser les relations, comment penser le rapport aux autorités. Cela peut être aussi utile dans le temps de Covid. Vivre en chrétien aujourd'hui permet de dresser différentes pistes. Ou des sujets pratiques comme les attentes de quelqu'un qui est jeune et qui voit que ses attentes ne sont pas toutes réalisées, ou l'accompagnement de personnes en difficulté, ou comment conduire notre vie. Puis des sujets éthiques, comment accueillir des personnes attirées par l'homosexualité qui veulent vivre cette attirance dans la fidélité à Dieu. L'auteur lui-même, dans ce cas-là, a écrit un livre tout à fait pertinent. Proposons également des biographies, des témoignages et romans pour créer des points de contact avec la foi, comme ici Marie Telot qui raconte son expérience d'institutrice. Donc Marie Telot est une juste parmi les nations qui raconte son expérience d'institutrice et de la manière dont elle a pu ou non, suivant les circonstances, communiquer la foi. Ou quelqu'un qui a grandi dans la mouvance de l'évangile de prospérité, qui en est sorti, le neveu de Benny Hinn, pour ceux qui connaissent ce nom-là, et qui donc va donner son témoignage et voir quelles sont ses coulisses de cet évangile de prospérité. Des livres pour les enfants et les adolescents, pour également les accompagner sur le chemin de la foi, que ce soit à travers des méditations, des courtes études de la nature avec une leçon rattachée à la Bible, du coup, de l'exploration de la nature, ou 80 questions traitées courantes posées par les adolescents. Ensuite, ces Bibles et ces livres, nous les distribuons à travers une plateforme au service des librairies en Suisse qui comprend 55 éditeurs à Romanel-sur-Lausanne, tout près d'ici. Et nous aurons un bilan très positif après presque 3 ans de fonctionnement de cette plateforme qui est très appréciée par les libraires. Libraires, justement, qui ne sont pas simplement des points de vente, mais des points de témoignage. Des librairies qui ont fermé, des librairies qui ont de nouveau ouvert, qui se sont renouvelées à travers des services de click and collect, par exemple, qui ont permis de servir différemment les clients dans cette période de pandémie, des nouveaux locaux, comme ici, la Maison de la Bible à Lyon, mais surtout de belles histoires. De personnes qui poussent la porte d'une librairie, qui disent « Mais j'aimerais pas acheter un livre ou une Bible, j'aimerais que vous priez pour moi, parce que je ne sais plus où aller avec la pandémie, je n'ai plus d'église. » Donc elles ont repéré qu'il y avait des chrétiens dans ces librairies qui pouvaient demander la prière. Ou des personnes qui disent « J'aimerais découvrir la Bible, puis c'est le confinement, j'aimerais en profiter. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la Bible ?» Alors les librairies de Bordeaux et de Lyon montent à ce moment-là des cours de découverte de la Bible, de nouvelles activités, points de vente certes, mais surtout des lieux de témoignage. Donc nous encourageons le ministère de la librairie chrétienne en leur fournissant une assistance, que ce soit informatique, que ce soit sur la comptabilité, que ce soit sur l'envoi mutualisé, pour les décharger au maximum des choses logistiques afin qu'elles puissent se concentrer sur leur mission de témoignage. Et puis enfin, comment toucher cette nouvelle génération qui se trouve être la génération de nos trois enfants avec Loïs. Donc, on sait un petit peu ce que c'est quand on regarde une vidéo YouTube de 3 minutes sur un sujet donné, parce que lire un livre de 200 pages, c'est tellement ennuyeux. On a plus vite fait de regarder une vidéo. Donc, nous sommes en partenariat avec le journal Ta Jeunesse, dont le site est renouvelé, qui propose des contenus relativement courts, justement, à l'adresse de ces jeunes. Nous avions, avant la pandémie, fait des concours pour ces jeunes, pour qu'ils fassent des vidéos autour de textes bibliques, pour illustrer des textes bibliques. Et ils ont fait de très belles réalisations. Si à votre tour, vous allez sur YouTube et tapez « Concours Bible Express », vous aurez quelques exemples de ces vidéos. Puis enfin, notre projet au long cours, une Bible d'études en préparation pour cette génération et pour l'accompagner toute la vie, avec deux choses. Une traduction de la seconde 21 qui sera revue pour gagner en fluidité de lecture pour ces jeunes, et puis beaucoup d'outils que vous voyez ici pour accompagner l'étude et la méditation, des encarts, comme ici, ou comme un regard antique ici pour comprendre le contexte archéologique, des notes, comme ici, des cartes que je n'ai pas fait figurer ici, des défis lancés aux jeunes, suivez par exemple dans l'Évangile selon Matthieu, « Et ceci fut accompli, et ceci fut accompli », des mini-chronologies ici pour se repérer, « Voilà, j'en suis là, avant et après, il y a ceci ou cela », et des parallèles. Donc nous remettons aussi ce projet, porté en particulier par Viviane, à vos prières, parce que nous croyons vraiment qu'il est important de proposer une Bible pour cette génération. Donc en résumé, des Bibles dans les langues de la Suisse et au-delà, des livres dans différents styles et avec différentes vocations pour accompagner la lecture et l'étude du texte biblique, des librairies qui ne sont simplement pas des lieux où l'on vend, mais des lieux où on témoigne de la foi, plus souvent ouvertes que les églises. Et enfin, vous pouvez prier pour ce souci, pour cette génération, comment l'accompagner, comment mettre à disposition de cette génération des outils pertinents. Merci beaucoup. Rebonjour. Alors, j'ai intitulé ce message « La foi d'Abraham, exemple inaccessible ». Et je vais lire dans la lettre que Paul a composée pour les Romains au chapitre 4. Mais avant de commencer à lire, j'aimerais resituer un petit peu le contexte de ce que je vais lire. Paul s'adresse, dans l'année 57 environ, à une église qui est constituée de personnes d'arrière-plan très différents. Les Juifs étaient majoritaires, puis ils ont été chassés sous l'empereur Claude quelques années avant, donc ils sont en train de revenir. Et donc l'assistance, l'Église de Rome est composée à la fois de personnes juives et de personnes non juives. Dans les premiers chapitres de cette lettre, Paul explique que personne ne peut être considéré comme juste devant Dieu par le moyen de ses actions, ou même en respectant la loi juive pour les Juifs qui comprennent cela. Quel que soit son arrière-plan, nos œuvres ne nous accordent pas la justice devant Dieu. Mais en revanche, quelqu'un a été donné pour que nous soyons justes. Et nous pouvons lire en introduction au chapitre 3, donc nous pouvons consulter le texte biblique au Romains 3, les versets 20 à 22. Personne ne sera considéré comme juste devant Dieu sur la base des œuvres de la loi, car c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. La justice par la foi. Mais maintenant, il y a quelque chose d'autre qui se passe. C'est possible d'être juste, mais autrement. Non pas par la loi, non pas par nos œuvres, mais par la foi. Alors Paul va asseoir cette démonstration vis-à-vis de ses auditeurs sur un exemple. L'exemple d'Abraham, référence numéro 1 chez les Juifs. D'ailleurs, quand il discutait avec Jésus, il disait « Mais nous sommes la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne », vont-ils dire à Jésus. Évangile selon Jean, chapitre 8. Alors nous allons lire les 5 premiers versets de Romains 4. Romains 4, versets 1 à 5, cet exemple d'Abraham. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre ? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts ? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham a eu confiance en Dieu, et cela lui a été compté comme justice. Citation de Genèse 15. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un, en plus d'Abraham, si quelqu'un ne fait rien mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Alors, deux petits termes techniques. Sa foi lui a été comptée, c'est un terme de comptabilité qu'on utilisait à ce moment-là, simplement pour dire, bien, sa foi était mise à son actif. D'autres choses peuvent être mises au passif, actif, ce sont des termes de comptabilité. Là, ce que dit Paul, c'est simplement, sa foi était mise à son actif. Puis il y a aussi un terme juridique qui est employé, déclaré juste. Donc à la fois un terme de comptabilité, un terme juridique. Tout cela pour dire que, quoi ? La comptabilité de Dieu, ce n'est pas la nôtre. Dieu, il ne compte pas comme nous. Nous aurions plutôt été tentés, nous, de mettre des bonnes œuvres en actif. Mais Dieu, il ne compte pas de la même façon. Il met la foi en actif. La justice de Dieu n'est pas non plus la nôtre. Elle ne suit pas nos standards. Abraham se voit attribuer sa justice par la foi en Jésus-Christ, pas par ses œuvres. Pourtant, les œuvres d'Abraham, les Juifs les admiraient énormément. Mais Paul va dire quelque chose de révolutionnaire. Il va leur dire, mais ce n'est pas par ces œuvres d'Abraham que vous l'admirez qu'il a été déclaré juste, mais c'est simplement par la foi. Alors, deux détails importants, peut-être pour expliquer aussi la lecture du texte. Le « si quelqu'un », puisque j'ai intitulé ce message « La foi d'Abraham est-elle inaccessible ?» Puis le texte nous fournit la réponse. Il n'y a pas qu'Abraham qui est là. Il y a un « si quelqu'un ». Si quelqu'un qui croit en Dieu qui justifie l'impie. Alors simplement déjà expliquer « impie ». C'est un terme assez peu courant. Cela désigne celles et ceux qui ne connaissaient pas Dieu ou et ne le reconnaissaient pas. Ne le reconnaissaient pas comme source de vie, comme créateur, comme source de toutes choses, et qui n'avaient aucune envie de se soumettre à lui. C'est cela, les impies. Et même comme chrétien, on peut des fois ne pas toujours reconnaître que Dieu est au-dessus de toutes choses et au-dessus de nos vies. Et puis, la foi est un objet. Elle a toujours un objet. J'ai la foi, ça ne veut rien dire. Mais alors strictement rien dire. Là, ce que nous voyons, c'est qu'Abraham a eu foi en Dieu. Que le quelqu'un peut être déclaré juste parce qu'il a foi dans le Dieu qui déclare juste le quelqu'un. Donc, c'est parce que la foi a un objet, c'est qu'elle repose sur ce quelqu'un, sur Dieu, que ce n'est justement pas une œuvre. En tout cas, pas une œuvre comme les autres, et qu'elle est complètement différente. C'est ce que Jésus dit d'ailleurs dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, quand il dit, mais l'œuvre de Dieu, quand il dit à ses disciples, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, il est possible d'avoir la même foi qu'Abraham. Elle n'est pas inaccessible, elle nous rend juste. Mais cette foi va plus loin. Cette foi est aussi accompagnée et va avec une promesse. Puisqu'on pourrait se dire, la foi nous rend juste, donc au début de notre vie avec Dieu, nous avons cette foi-là, mais est-ce que la foi, elle est utile après ? Alors nous voyons qu'Abraham, il a une foi qui était non seulement liée au fait qu'il soit juste, mais liée à une promesse qu'il a reçue. Et je vous propose de lire un petit peu plus loin, au verset 13, dans le même chapitre. La promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance. Elle n'a pas été par la loi, mais c'est par la justice de la foi. Verset 17. 16 déjà, car c'est par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce, et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, les Juifs, mais aussi celle qui a la foi d'Abraham, ce quelqu'un, n'importe qui. En effet, Abraham est notre père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta descendance ». Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Après l'âge de 75 ans, la vie d'Abraham a tourné autour d'une promesse. En Genèse 12, déjà, ce qui lui a été dit, « Va, quitte ton pays, ta patrie et ta famille. Quitte tout ce que tu connais et va. » Au chapitre suivant, Dieu lui dit, « Lève les yeux, Abraham. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à ta descendance. » Et puis juste après le verset qui est cité ici, « Abraham crut Dieu et cela lui fut compté à justice », Dieu lui dit quelque chose au chapitre 15 et au verset 5. « Regarde vers le ciel, regarde Abraham, et compte les étoiles. Je suis l'Éternel qui te donne ce pays en possession. » Genèse 17, encore une fois, « Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger. » Entre le moment où Abraham a entendu « Se va, quitte ton pays » et le moment où Isaac est né, il s'est écoulé environ 25 ans. Et Abraham a eu foi toute sa vie, pas simplement pour devenir juste, mais la foi c'était un modèle de vie pour Abraham, c'était un style de vie, puisque sa foi a tourné autour de la promesse. Et je trouve cela très beau. Et l'objet de la foi d'Abraham, puisque la foi est un objet, encore une fois, ce n'est pas simplement le Dieu qui rend juste ici, c'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Qui pourrait faire plus que cela, que donner la vie aux morts et d'appeler ce qui n'existe pas à l'existence? Ici, cela s'applique à Isaac, puisque le miracle, c'était de donner la vie dans des corps déjà frappés par la mort comme celui d'Abraham et celui de Sarah. Ce qui est dit de la foi d'Abraham est extrêmement beau. Il place sa confiance en Dieu malgré des apparences contraires, espérant contre toute espérance, même dans la désespérance, même dans des circonstances complètement contraires, Abraham croit. Abraham n'est pas faible dans la foi, il est fort. Abraham n'a pas douté par incrédulité. Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Alors c'est beau tout ça, c'est inspirant, hein, vous ne trouvez pas? Vous trouvez que c'est accessible? Pas trop, hein. Moi en tout cas je trouve que c'est un peu inaccessible. Alors c'est très utile d'avoir des témoins additionnels et le récit de la Genèse éclaire un petit peu ce tableau idyllique. Au chapitre 12 et au chapitre 20 de la Genèse, Abraham, deux fois, présente Sarah comme sa sœur, parce qu'il ne veut pas avoir d'ennui. La deuxième fois, c'est assez étonnant, parce qu'elle survient après l'accomplissement de la promesse, après que Isaac soit né, et pourtant, il remet le couvert, il remet ça. Il fait un demi-mensonge, puisque Sarah était sa demi-sœur. Au chapitre 16, il écoute Sarah, qui lui suggère d'avoir un enfant par l'entremise d'Agar, de la servante. Et puis un enfant qui naît. Mais ce n'est pas l'enfant de la promesse, c'est Ismaël. On connaît le rire de Sarah, mais je n'ai pas ri quand ces trois hommes divins viennent visiter Abraham au chapitre 18 de la Genèse. Mais on oublie des fois qu'au chapitre 17, Abraham, quand il tombe le visage contre terre devant Dieu, il rit et dit dans son cœur, « Un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans ?» Et là, Dieu lui dit, « Bah oui, tu vas avoir un fils. Et en plus, comme tu as ri, tu vas l'appeler rire, ton fils. » Isaac veut dire rire. Abraham a eu des doutes. Il a eu des chemins de traverse. Il a eu des tentations de croire plutôt en ses stratagèmes plutôt qu'en Dieu pour obtenir la promesse. Là, sa foi, elle devient un petit peu plus accessible. Mais ce que j'aime, c'est que dans ce texte du Nouveau Testament, c'est que le positif qui soit retenu. Il crut contre toute espérance. Il croyait que celui qui peut donner quelque chose, il est aussi puissant pour l'accomplir. Et puis il y a un sommet, il n'y a pas que des bas dans la foi d'Abraham, il y a aussi un sommet au chapitre 22 de la Genèse. Et ce sommet donne aussi de l'espérance pour nous qui connaissons aussi ces bas. Abraham, Dieu lui a demandé d'offrir son fils, d'offrir l'objet de la promesse. Quelque chose d'incompréhensible, mais il n'y a que le Dieu des nations auquel on offre les fils. Tu n'es pas un Dieu comme ça, éternel. Puis en plus, tu me l'as donné, ce fils, Isaac. Est-ce que ça a un sens de l'offrir ? Mais il a obéi. Juste au moment de lever le couteau, Dieu arrête son bras, parce que l'importance n'était pas d'offrir le fils de la promesse, mais que Abraham soit prêt à même renoncer à l'accomplissement de la promesse. Alors, si nous nous reconnaissons dans les bas d'Abraham, nous pouvons aussi avoir espérance que notre foi puisse connaître ces mêmes hauteurs. Accessible, donc, ce n'est pas seulement pour lui, mais pour nous. Mais pour nous, la promesse, elle est un petit peu différente. On a un objet de promesse qui est dans le prolongement d'Isaac. Isaac est né, puis après lui, Jacob, et puis bien d'autres. Puis au début de l'évangile, selon Matthieu, nous voyons cette longue généalogie qui arrive à Jésus. Et oui, c'est lui notre objet d'espérance. Et nous plaçons notre espérance en celui qui donne la vie aux morts, mais en particulier, comme nous l'avons lu à la fin du texte, nous croyons en celui qui a ressuscité, Jésus, notre Seigneur. Cette foi nous permet, comme Abraham, d'être juste, parce que c'est lui qui a été donné pour nos fautes. C'est lui qui les a portées, Jésus-Christ. Sa justice devient la nôtre, et sa résurrection le confirme, qui a été ressuscité à cause de notre justification. Mais au-delà, nous avons aussi une promesse qui nous fait vivre et qui nous fait avoir cette même foi qu'Abraham tout au long de notre vie. Alors Abraham, c'était la terre de Canaan qui lui était promise. Pour nous, c'est quelque chose d'autre. Elle préfigure une autre terre, à savoir la nouvelle terre et un royaume à venir auquel nous participerons. Jésus l'annonce déjà dans son premier discours quand il dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. » Un petit peu plus loin, au chapitre 8, dans la même lettre, nous lisons ceci. « Or, si nous sommes enfants de Dieu, » on a chanté tout à l'heure ce chant à notre Père. « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons afin de prendre aussi part à sa gloire. Nous prendrons part à la gloire de Christ. Cette foi en la promesse qu'elle nous accompagne aujourd'hui, qu'elle nous accompagne chaque jour de nos vies, cette promesse oriente nos vies, cette promesse nous accompagne. Ce n'est pas simplement être juste, mais c'est déjà si important. Cette foi nous fait devenir justes et cette foi nous accompagne dans cette promesse où nous attendons ce roi qui viendra régner sur cette nouvelle terre le jour où ce « il faut qu'il règne » soit réalisé et que nous soyons associés à ce règne. La foi d'Abraham est accessible. Accessible pour devenir juste. Accessible pour nous faire attendre la promesse du royaume.